telescope of pressing you on a point you seem reticent to discuss, may I ask you a straightforward question?
Well, certainly.
Quite frankly, we have had some very reliable intelligence reports that quite a serious epidemic has broken out at Clearance. Something apparently of an unknown origin.
Bonjour à vous et bienvenue dans ce 7e épisode de Porte et Houblon, chronique d'un confinement. Aujourd'hui, j'avais envie de parler, de rendre un petit hommage à ces gens qu'on pourrait qualifier de pauvres, selon certains critères, et que George Orwell nommait les gens ordinaires. Si je souhaitais leur rendre hommage maintenant, c'était parce que certains se seront rendus compte, voire même beaucoup compte, que ils avaient une utilité sociale, bien évidemment. Je parle ici de cette caissière, je parle ici de cette aide-infirmier, je parle ici de cette infirmière, je parle ici de cet éboueur, je parle ici de toutes ces petites mains qu'on croise au quotidien, dont on fait presque fi quelque part, parce que nous sommes dans notre routine, nous sommes aussi dans nos mécanismes de défense, que j'expliquerai un petit peu ultérieurement. Et donc nous sommes là à les regarder, pas forcément d'ailleurs, des fois nous sommes là certains à les mépriser. C'est vrai qu'on voit souvent ce dessin sur les réseaux sociaux, en se disant « si tu travailles mal, tu finiras comme cette caissière, tu finiras comme cet éboueur ». Alors que des fois la vie nous ne laisse pas non plus trop le choix de faire ce que nous sommes en droit de faire. C'est aussi simple que cela. Certains des fois naissent avec une cuillère en argent, voire même en or. Ça aurait été mieux en mercure dans la bouche, je serais peut-être un petit peu méchant en disant ça. Alors que certains, malheureusement, ils ne peuvent pas profiter de... ça revient toujours au même, ce capital de départ que pourraient avoir nos parents, tout simplement. C'est vrai que quand on part d'un peu plus haut, des fois, on est au-dessus du niveau de la mer, tout simplement. C'est toujours un petit peu plus simple. Alors, la vie n'est pas toujours simple non plus, tout de même, faut pas tout voir que par ce spectre, mais... Quand on n'a pas à réfléchir à se disant « Est-ce que ce soir, j'aurai de quoi manger ? Est-ce que, je peux m'acheter une PlayStation 5 ou alors une Xbox One X Series Z ?» Et plutôt que se dire « est-ce que je vais acheter du pain ou être dans le rouge ?» C'est tout de même un petit peu plus simple. Même si là, vous comprendrez, j'exagère un petit peu les traits, je caricature très légèrement. Le problème de nos amis les gens ordinaires aussi, c'est qu'on les visualise avec ce biais du capitalisme, du néolibéralisme, qui fait que à une époque, assez lointaine, peut-être 19e, peut-être, on faisait preuve de plus de charité. Bon, je ne dis pas que tout était mieux non plus, ne vous inquiétez pas. On faisait probablement plus preuve d'une certaine forme de charité, même s'il y avait des grosses faiblesses, bien évidemment. On pourrait parler, par exemple, de la création de la sécurité sociale, qu'il était là pour tout simplement pallier à une insécurité sociale qui faisait que les travailleurs, à un moment ou à un autre, arrivaient, pourrait-on le dire de façon assez crue, en bout de course, tout simplement. Ils devaient, et c'est d'ailleurs pour ça aussi que le système des retraites est appuyé sur la sécurité sociale. En effet, c'était dans son esprit le fait que les travailleuses et travailleurs pouvaient eux-mêmes cotiser à leur propre subsistance, pourrait-on dire, et pouvoir s'affranchir justement d'une certaine forme de capitalisation, ce qu'on essaie de mettre maintenant en place, et une certaine forme d'étatisation aussi, ce qui a été aussi mis en place un petit peu pour piper les dés, tout simplement. Parce que là où l'État met les doigts, on peut... ou autre chose d'ailleurs, parce que ne t'inquiète pas, tout simplement, il peut après, soit améliorer la chose, soit la casser, bien évidemment. Et bien évidemment, je parle de casse quand je dis ça, je ne vais pas me mentir. Et donc, notre ami le gens ordinaire, tout simplement, quand on le voit d'une vue néolibérale, d'une vue capitaliste, c'est une personne forcément donc qui n'a pas réussi. Tout simplement, elle n'est pas arrivée à avoir un niveau de subsistance qui pourrait... justement, faire une sorte d'élévation, parce qu'obviamment, quand on devient riche, il y a forcément une sorte d'élévation, mais on continue tout de même à le déjuger en tout et pour tout. Vous connaissez probablement ces gens qui sont sans le sou, mais dans l'un de leurs rares plaisirs, qui leur permet justement un petit peu de s'évader, d'exorciser, de sortir de cette condition, pas non plus, comment ça s'appelle, des échelons énormes, mais qui leur permet un petit peu d'évasion, justement, c'est par exemple de fumer. Eh bien, si tu es riche et que tu fumes des cigares, c'est bien, enfin c'est bien, on s'en fout. Par contre, malheureusement, quand tu es pauvre, quand tu es sans le sou, eh bien, il te faut presque faire plus preuve d'image que le riche. Le riche, il y a une montre qui peut être très chère, malheureusement, tu ne sauras jamais en donner le prix, parce que dépasser une certaine somme, je pense que ça te devient inconcevable, sauf bien évidemment si tu es immensément riche. Sur ce, je t'enjoins à donner quelques sous sur mon Tipeee, bien évidemment. Mais là n'est pas la question. Et donc, quand on est pauvre, en plus de devoir subir ben, toute cette ostracisation au niveau, ben, déjà, niveau du pécunier, eh bien, on a cette ostracisation sociale qui fait qu'il faudrait en plus vivre une vie d'ascète. Une vie d'ascète, c'est une vie pas de quelqu'un qui vivrait dans la montagne, mais quelqu'un qui vivrait. Ouais, de façon modérée, mais voilà, donc faudrait qu'en fait il travaille à fond, presque, hein, grosso modo, qu'il continue sa vie de misère, même si peut-être on a toujours cette vue de l'esprit qui veut que si on travaille très 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 fort, un jour on sera très très, très, très récompensé. Ce qui est, à mon humble avis, une connerie totale quand on regarde des gens, parce que des fois, souvent on cite des gens comme ça alors qu'il y en a très peu. C'est un peu cette American Way of Life ou le rêve américain qui voudrait que Bill Gates ait un jour fait Microsoft tout seul alors que sa mère était au conseil d'administration de IBM et que bizarrement le logiciel Windows à l'époque hein, a été sélectionné par IBM pour habiter ces systèmes d'exploitation pour être le système d'exploitation des IBM PC. Je vois pas pourquoi. Voilà. C'est pareil, Elon Musk avait un père qui avait une mine de diamants en Afrique du Sud. Oh, je pense que ça a dû lui mettre 2-3 sous-sous pour commencer son activité de PayPal. Hein. Ça n'a pas dû l'embêter beaucoup. Il a dû aller quémander quelques deniers. Alors, ces braves gens, on les juge. De toute façon, comme j'ai dit tout à l'heure, ils n'ont pas réussi, donc ils ne sont rien. Donc, pourquoi finalement s'embêter? Et c'est là vraiment le gros nœud du problème. C'est que souvent, dans la plupart des cas, hein, ils font des boulots qu'on pourrait appeler à une utilité sociale. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la caissière, les boueurs, etc., l'infirmière, l'aide-soignant, sont des travaux. Hein, c'est du travail à utilité sociale. Malheureusement, le travail à utilité sociale, eh ben, ça rapporte pas tant que ça. Hein, valait mieux faire, je ne sais pas, trader. Ça, c'est bien vu. Fallait faire assureur aussi, ça c'est bien vu visiblement, même si bon, dans les deux cas, je doute de l'utilité sociale en tant que telle, hein, mais je vous laisse deviner. Vous pouvez faire aussi manager, ça c'est très très bien, grande utilité sociale que d'être manager. Vous pouvez faire aussi community manager, développeur web comme moi aussi, très très grande utilité sociale, c'est magnifique, c'est formidable. Et voilà, il y a plein de travail comme ça, on pourrait dire dans la sociologie, ça se regardait un petit peu, voilà. Même dans la sociologie, il y a beaucoup d'utilité sociale aussi, hein, c'est que, voilà. Mais, alors, je suis un peu chambreur là-dessus aussi, il faut aussi savoir se mettre en perspective. Il y a aussi d'autres travaux qui n'ont pas forcément d'utilité sociale en tant que telle, de prime abord. C'est-à-dire qu'ils ne nous vendent pas quelque chose un bien de subsistance, ils ne viennent pas en aide à nous quand nous avons un problème, mais qui permettent justement d'avoir un rapport aux autres, qui permettent justement d'avoir un rapport d'élévation qui permettrait justement d'aller chercher des petits rouages différents, d'aller voir un petit peu autre chose. Et ben justement, quand on favorise toujours ceux, toujours les mêmes, du néolibéralisme et du capitalisme, et ben faut pas s'étonner que les pauvres, ils le restent. Hein, parce que c'est un petit peu les petites mains qui font tourner le truc. Je comprends bien, on va pas non plus les rogner. Surtout que, comme je l'ai déjà dit dans les épisodes précédents, maintenant, comment ça s'appelle, pas le coût du travail, mais on va dire que. La productivité, voilà, du travail n'augmente plus de façon pas exponentielle, mais de façon accélérée, parce qu'on s'est tourné vers des sociétés de services, on vend des habits, donc quand on vend un habit, on va pas en vendre 50, c'est pas possible. On aimerait, mais c'est pas, maintenant c'est pas possible, quoi. Et donc, fatalement, quand on ne peut pas améliorer ben, la productivité du travail, qu'est-ce qu'on rogne? Ben, on rogne forcément sur le coût du travail et les salaires, on va dire grosso modo. Donc finalement, les pauvres, on va pas leur donner plus d'argent, hein, tu comprends? On va essayer de leur rogner, comme je dis tout à l'heure, la sécurité sociale, on va essayer de leur rogner les congés payés, on va essayer de leur rogner les droits chômage. Comme ça permet, écoute, d'éviter une forme aussi d'inflation qui justement, ben, permettrait. Et puis finalement, en plus, ce qu'il faut savoir sur les effets de l'inflation, c'est qu'elle aide aussi les ménages à revenus modestes, parce que bon, ça aide aussi les gros ménages, mais comme ils investissent, c'est un peu différent. Mais pour tout dire, avec l'inflation, par exemple, si on a une dette à une dette, c'est toujours, comment dire, c'est toujours un stock. C'est-à-dire qu'au moment, si on doit 10, on doit 10. Oui. Sauf qu'avec l'inflation, si on gagne 1, eh bien, au moment, on peut gagner 1,1 ou 1,2, par exemple. Et donc, avec l'inflation, finalement, on rembourse plus rapidement ce qu'on devait. Et c'est pour ça que, des fois, ça a plus de facilité à aider les petits ménages, parce que les riches, en fait, c'est un petit peu des rentiers, donc ça les avantage. Ça les avantage, mais pas dans les mêmes termes. Et d'ailleurs, en parlant d'argent, c'est aussi une des raisons qui m'a fait aborder ce sujet, c'est qu'il y a très peu de temps, dont j'enregistre, nous sommes le 24 avril 2020, et le Parlement européen, aka le Parlement fantoche, a décidé de voter pour savoir si la Banque Centrale Européenne pouvait un petit peu, alors c'était dans les termes, c'était faire un peu tourner la planche à billets, c'est-à-dire que financer les États, enfin, du moins donner des liquidités aux États, et annuler une partie de sa dette, parce que justement, comme c'est elle qui fournit l'argent directement, elle peut, par des jeux, si elle fait tourner un petit peu la planche à euros, pas la planche à euros sur les marchés, mais justement aller supprimer une partie des dettes. Eh ben, les gens ont voté non, hein, c'est bizarre ça. Alors qui a voté non? Alors qui a voté alors parce que là c'était vraiment pour faire ça, hein, avec une partie d'annulation de la dette. Alors qui a voté non? Bien évidemment les faquins du Rassemblement National ou du Front National, hein, qui sont toujours prompts à retourner leur veste par-ci par-là. Les Républicains, parce que bon, je comprends bien, c'est pas les, on va dire, c'est des rigoureux et comment dire budgétaires. Nous avons aussi les jeunes du centre, avec La République En Marche, par exemple, qui sont à peu près du même acabit. Alors que ceux qui ont voté contre, et puis je vais vous dire qui m'a surpris dans ce classement, nous avons donc la France Insoumise qui était contre, et le Parti Socialiste, ce qui m'a quand même légèrement étonné, parce que bon, on va dire qu'on a une certaine grosse forme d'accointance entre le Parti Socialiste, non, les sociaux-libéraux, et les partis plus centristes comme La République En Marche. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un schéma pour que vous compreniez. Et donc, qui a voté contre ça et contre à l'unanimité du groupe, hein, c'est les écologistes. Et c'est là que je me suis posé une grosse question, tout de même. Je regardais ça avec un œil un petit peu surpris, pas ravi, hein, forcément, mais un petit peu vraiment surpris. Je me suis dit que. Alors, je vais faire un petit historique assez simple. Généralement, quand on crée de la dette, c'est simple, hein, on la fait payer, comme en 2008, en 2009, avec la crise des dettes souveraines européennes. Eh bien, à qui on l'a fait payer, d'après vous, cette austérité? D'ailleurs, on a fait, voilà, une cure d'austérité. À qui c'est généralement qu'on fait payer ça? Aux pauvres, parce que le pauvre, il ne peut pas partir. Il n'a pas de capitaux, il ne peut pas partir. Le gens ordinaire, visible, bah, ça, du coup, il s'en prend plein la gueule. Il n'a plus d'hôpitaux, tiens, ça me rappelle quelque chose. Il y a de moins en moins de sécurité sociale, tiens, ça me rappelle quelque chose. Il y a de moins en moins, par exemple, de droits chômage, tiens, ça me rappelle quelque chose. En plus, on vient le blâmer, parce que tu comprends bien, le pauvre, en plus, il n'a pas d'argent pour subir ce que moi, j'appelle. Ou qui s'appelle la mobilité contrainte, donc c'est-à-dire ce fait d'aller à droite à gauche pour monnayer son cul, parce que moi j'utilise les mots comme ils sont, c'est aller à droite à gauche pour monnayer son cul, parce que tu comprends bien, aller dans la grande ville, c'est très bien, c'est très beau, il y a plein d'argent, on y vit bien, il y a des cafés bobos, il y a des trucs de merde comme ça, mais ça c'est la mobilité, alors, généralement on la subit aussi, mais on essaie de mieux la vivre, hein, quand on a de l'argent, c'est plus simple, on peut aller faire des concerts, on peut aller dans des bars. On peut rencontrer des gens de merde sur Tinder, on peut aller faire des voyages à la con, dans des pays de. Non, pas les pays de merde, non, ce serait méchant pour ces pays-là. On serait reçu par des gens qui n'ont comme pour but premier, parce qu'ils ne survivent que du tourisme. Hein. Je sais que malheureusement, peut-être qu'il y en aura qui m'écouteront. Mais bon, c'est vrai que maintenant, il y a des pays, quand il n'y a plus de touristes, les gens ils sont quand même un petit peu bien emmerdés. Hein, parce que ton pays aussi, ça devient ce que moi j'appelle, ou que Régis Debray nommait poétiquement, un musée à ciel ouvert, c'est-à-dire que dans ton pays, il ne s'y passe plus rien, parce qu'il faut que les touristes y viennent, et on va pas faire bouger les choses, parce que sinon, les gens, ils n'aiment pas trop le changement, tu comprends, alors voilà quoi. C'est un petit peu embêtant. Et donc, pour revenir à mes petits, si on annule de la dette, généralement, on pourrait dire qu'on soulage quand même comment ça s'appelle, les ménages les plus modestes, aux revenus modestes. Et quand je vois que les écologistes sont contre ce type de démarche, alors, du moins, c'est les écologistes européens. Je ne vais pas mettre tout le monde dans le même sac, si même je vois une certaine forme de. Bah encore une fois, toujours ce que je disais tout à l'heure, une forme de mépris de classe, tout simplement. Ces gens-là ne pourront jamais, par exemple, ils n'ont pas assez d'argent pour. Je vais prendre le biais des collapsologues et des survivalistes, hein, parce que les collapsologues, ciao mon ami Pablo Servigne, qui est plutôt un beau guignol, je trouve. C'est-à-dire que c'est des gens, pour moi je dis que c'est des guignols qui sont en fait, par exemple, de cette forme de survivalisme qu'ils essaient de faussement promouvoir. Il la saupoudre toujours un peu d'aspect social, tout ça, parce que sinon ça fait pas joli. Et malheureusement, quand on réfléchit en termes de petits comités, par exemple, si on fait des petits comités de survivalistes pour planter des carottes et bien en vivre, je te dirais pourquoi pas. Malheureusement, c'est pas parce que je vais arrêter de faire je vais arrêter de passer des pesticides ou d'autres choses du même genre que je ne peux, que je n'ai pas, que j'aurai pas de risque, par exemple, de choper un cancer ou d'autres maladies plutôt graves. Par exemple, une appendicite. Tiens, allez. Pour utiliser une maladie qui peut être très mortelle, mais voilà, qu'on peut quand même soigner. Bien si je fais que des petits comités de survivalistes, comment s'appelle ce qu'on pourrait appeler le service public, à savoir par exemple l'hôpital, ça n'existe pas dans ce type de schéma de pensée. Donc moi je trouve que ça peut être, voilà, à partir du moment où ça peut être annoncé de but en blanc, je dis pas à la rigueur, mais c'est vrai qu'il y a quand même une espèce de biais idéologique. Qui fait que, en fait, leur truc, c'est grosso modo, c'est du pur survivalisme, quoi. C'est vraiment, déjà ce qu'on vit en ce moment, déjà, de toute façon, c'est clair et simple. C'est la concurrence de tous contre tout. Moi, je dis un tout, parce que c'est vraiment aussi contre, pas contre les gens, que contre les gens, c'est aussi les gens contre une certaine forme d'écologie, contre une forme d'économie, contre une forme de tout. C'est pour ça que je dis une forme de tout contre tout, de tous contre tout. C'est vraiment quelque chose de global. Et donc, chez mes amis les écolos, je leur suspecte, alors elle est un peu placée, hein, je pense que j'espère que d'autres sont bien plus sensés que ça, eh ben, il y a une forme toujours de mépris. Voilà, c'est un petit peu, ces gens-là n'ont pas réussi, on ne peut pas compter sur eux, de toute façon, ils prennent leur voiture pour aller travailler, c'est dégueulasse. Mais ce mépris de classe, il continue. Alors, quand je parlais tout à l'heure de Pablo Servigne, c'est parce qu'il n'y a pas très longtemps, ils ont fait une vidéo avec des copains à eux, des copines à eux, Mancha Ballet, visiblement, où ils disaient, oui, moi j'arrête de prendre l'avion. Ah, formidable! Alors ça c'est bien en termes d'écologie, mais il y a toujours un petit peu derrière cette idée aussi que pour arrêter de prendre quelque chose, il faut être aussi en capacité de pouvoir le prendre. Donc c'est-à-dire que le pauvre, que tu prennes pas l'avion, bah, lui il peut pas, déjà de base. Ou alors il va falloir qu'il se saigne aux quatre veines pour le prendre, et ça va pas plus l'arranger sa vie, quoi. Donc c'est déjà ce biais-là. Et il y a plein de biais comme ça, c'est un petit peu, ouais, faut prendre son temps pour aller chercher, comment ça s'appelle, pour aller chercher du quinoa équitable, pour ne pas manger de bœuf, tout ça, patin couffin. Alors qu'il y a des gens, et eh ben malheureusement, on dira toujours ce qu'on veut des pauvres, on leur fait. Alors c'est ça qui est bien, comme je dis tout à l'heure, je reviens encore une fois à cette vie d'asset, c'est-à-dire qu'on leur reproche tout et son contraire. C'est ça qui est bien, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien, mais on va quand même leur reprocher. Toujours avec cette fameuse mobilité, cette fameuse. Parce que tu roules, tu pollues. Et patins, et couffins, et toutes ces merdes, mais c'est vraiment, bon, c'est vraiment de la merde qu'on leur fout sur la gueule. Et du coup, s'il peut pas aller s'acheter son quinoa équitable, ou sa viande, ou alors qu'il va pas chez son producteur local, qui n'utilise pas de pesticides, lui, parce que c'est beaucoup mieux, on sait pas pourquoi, des fois d'ailleurs, pas de pesticides chimiques. C'est-à-dire que, voilà, bon, bref. Et on se retrouve dans des cas de figure, mais ça devient mais complètement tordu, quoi. En fait, finalement, on leur reproche tout. On leur reproche des. On leur reproche pas. Alors, par contre, on leur propose. On leur reproche pas de. Comment dire, de participer au capital. Ça, par contre, pour l'instant, on leur a pas trop reproché. Ça va. Mais par contre, le reste, ça va pas. Tu vois, quand ils roulent, avoir leur voiture qui pollue, tout ça, patin couffin. Et en plus, malheureusement, ils n'ont pas les moyens pour s'acheter un petit jardinet. Ils n'ont pas les moyens pour s'acheter un beau vélo électrique. Ils n'ont pas les moyens pour s'acheter des tote bags en pur coton, véritable. Ils n'ont pas à réfléchir entre on va se faire des haricots rouges de je sais pas de bio ou de la viande très très bon marché. Non, finalement on va arrêter de prendre de la viande. Ouais, moi je trouve que ouais, c'est on arrive à un point où moi je dis sincèrement, mais c'est ignoble quoi en fait ce qu'on fait. C'est vraiment, il y a des gens, ils sont déjà pas plus bas que terre, mais presque. Voilà, faut pas se mentir. Et on les rebat plus bas que terre. C'est toujours un petit peu. C'est toujours ce biais-là. Alors on imagine aussi, il y a ce biais aussi d'une certaine forme de communisme et de marxisme. Quelque part aussi, c'est qu'en donnant de la force de travail à certains ouvriers, on leur donne le pouvoir un jour peut-être de faire ce fameux grand soir, c'est-à-dire de tout envoyer valser. Autant dire, depuis le temps que cette doctrine a été inventée, a été maturée, je cherche encore le grand soir. Tous les soirs, je suis allé à la fenêtre, je me dis, le grand soir va-t-il débarquer? Non, j'ai toujours pas vu. Peut-être un jour, mais j'ai quand même. Plus le temps passe et plus j'ai des doutes. Et c'est vrai que. Voilà, je voulais rendre un petit peu hommage à ces gens-là. Alors, j'espère aussi que parmi les gens qui écoutent, qui ont peut-être des situations mieux hein, que d'être. Voilà, j'espère que vous avez des questions, comme j'ai dit tout à l'heure, plus existentielles. Vous dire est-ce que j'achète une console de jeux vidéo ou une autre? Est-ce que je change la télé par une télé 4K ou une télé 8K? Je ne sais pas si c'est bien mieux dans votre vie, mais bon, voilà. Au moins, vous êtes sur ce point-là, vous êtes plus tranquille. Et voilà, ce que je voudrais questionner, c'est aussi. Peut-être que vous l'avez, c'est vraiment aussi cette peur de glisser, quand on est un petit peu juste au-dessus. Tu sais, pas on les pauvres avec mépris, mais on les comprend que trop bien, toi, quelque part. Parce qu'on sait qu'un jour ou l'autre, on peut être ben, comme eux, on peut être avec eux. Et que même à ce moment-là, quand on sentira le fardeau de l'existence, le fardeau de plein de diktats, on sera quand même un petit peu pas heureux, mais on verra un petit peu mieux venir. Quand on se dira que si je suis malade, je pourrais être un minimum soigné, j'aurai toujours un petit peu d'assurance chômage. Mais malheureusement, tout ça, par pur calcul financier, c'est des choses qu'on rogne, tout simplement, inévitablement, inexorablement, j'ai presque envie de dire. Et c'est aussi ça que je voudrais faire réfléchir les gens, c'est que la vie ne doit pas être non plus que des calculs égoïstes. Il faut savoir aussi se replacer en se disant, bon, finalement, je profite du système, mais. Jusqu'à quel point cela est-il entendable? Est-ce qu'il ne faut pas aussi que je partage un petit peu avec lui, un petit peu bah, tout simplement de mon revenu, hein, parce que c'est la chose principale auquel je serai attaché aujourd'hui, et de se dire, bon, est-ce que si un jour ça pourrait sauver quelqu'un bah, d'une maladie diverse, lui permettre de passer un chômage un peu plus tranquille? Alors, je dirais, pourquoi pas? Par contre, c'est vrai, quand on dépense les deniers, nos beaux impôts, notre belle TVA surtout, dans des effets de manche compétitifs comme le CICE, hein, le crédit aux entreprises, qui n'apporte strictement rien. Les économistes sont plutôt d'accord là-dessus, donc nous allons les croire, hein, parce que logiquement, quand ils disent que quelque chose est bien, oh, vous inquiétez pas, ils le disent. Et donc oui, c'est vrai que des fois, bah, je pense on ferait mieux de sanctuariser des choses comme la sécurité sociale, comme les droits au chômage, comme le droit à la retraite aussi, tout simplement. Avoir une fin de vie plus tranquille, enfin fin de vie, une fin d'existence, hein. Enfin bon bref, je pense que vous aurez compris. C'est vrai que ça serait peut-être pas plus mal plutôt que de faire tout des petits calculs d'apothicaire pour se dire est-ce que je paye pas trop d'impôts, est-ce que patin, est-ce que couffin. Mais je pense que de toute façon, des variables d'ajustement, on en a, je vous l'ai dit par exemple tout à l'heure, le CICE. Et si on faisait participer les gens qui avaient un peu plus de revenus, qui eux justement pourraient un petit peu plus participer, parce que comme je le répéterai, qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, qu'on soit de classe moyenne, eh bien on mange que à peu près 3 fois ou 4 fois par jour. Hein. On ne pourra jamais manger 150 000 pommes, qu'elles soient de luxe ou pas. On ne pourra jamais manger 40 000 steaks par jour. On pourra non plus ne conduire qu'une voiture à la fois, ou un jet privé à la fois, ça dépend. Et donc, ouais, c'est vrai que voilà, si tout le monde pouvait un petit peu participer à cet effort-là, mais je suis pas sûr que par les temps qui courent, ce soit quelque chose de forcément recevable. Bon, écoutez, ça aura été un petit peu bordélique. J'espère que vous aurez compris un petit peu l'idée sous-jacente que je voulais dire, voilà, là-dessus. Et c'était donc Gandalf 81 qui vous remercie pour votre écoute et qui vous dit à très bientôt dans Force et Houblon, chronique d'un confinement.